Bonjour. C'est toujours bizarre d'être là. Et c'est vrai qu'aussi doublement bizarre avec tout ce qu'on a vécu cette semaine. Mais j'espère qu'en méditant la parole ce matin ensemble, on puisse trouver des choses qui nous parlent et qui nous fassent aller dans le sens que Dieu a pour nous. Et j'aimerais commencer par une rencontre que j'ai faite cette semaine. Cette semaine, dans le quartier de Vinicieux, comme chaque année, il y a eu les vœux de paix qui ont été prononcés. C'était mercredi soir. Au départ, c'est pas moi qui devais y aller, mais j'étais plus ou moins forcé d'y aller. Et j'étais le seul, le plus jeune, parce que ça intéresse pas beaucoup de personnes d'aller souhaiter les vœux de paix au maire de Vénissieux ou au ministre. Et j'étais un des plus jeunes, avec ma tenue un peu décontractée, avec un jean troué. Mais n'empêche que, même si au départ j'avais pas ce désir-là, j'ai fait une rencontre et je pense que ma place était là. Parce que j'ai pu discuter avec un journaliste qui était présent sur ma foi. Et en fait, il m'a pas lâché la grappe. J'étais le dernier à partir, bien longtemps après les autres. Et on a bien discuté de ce qu'était la foi. Et ça, j'ai trouvé extraordinaire de vivre ça. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que une chose qui m'a marqué dans cette discussion avec lui, c'est qu'il n'arrivait pas à comprendre que finalement, si je vivais une foi chrétienne, c'était pas parce que la société m'avait inculqué des valeurs, c'était pas parce que ma famille m'avait inculqué des valeurs, c'est pas parce que j'avais été forcé par tous les bagages que peuvent apporter la vie, mais parce que j'avais fait ce choix librement et de plein gré. Et en fait, le sujet plus ou moins qu'on va essayer de toucher ce matin, ça va être cette notion de liberté. Et plus particulièrement, pourquoi en tant que chrétien, en fait, je suis libre et je suis appelé à vivre libre. Alors vous me direz, c'est cool ça comme nouvelle pour l'année 2015, vivre libre. C'est plutôt un message d'espoir. Mais j'aimerais rattacher à une deuxième partie qui fait peut-être moins plaisir. Et l'idée que j'aimerais laisser ce matin, c'est être enchaîné à Christ pour vivre libre. Et j'aimerais partager cela ce matin avec vous dans l'évangile de Jean, chapitre 15, cette idée, oui, d'être enchaîné à Christ pour vivre libre. Je vais lire dans Jean 15, les versets 1 à 16. Jean 15, versets 1 à 16. C'est Jésus qui parle. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Et je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. Il y a quoi ? Il y a de quoi dire. Enchaîné à Christ pour vivre libre. Et j'aimerais partager deux aspects avec vous. D'abord, on va voir l'enchaînement du disciple à Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et finalement, ce que porte le disciple dans ses chaînes. C'est vraiment deux axes que j'aimerais partager avec vous ce matin. Alors, tout d'abord, l'enchaînement du disciple à Christ. J'aimerais voir ce que ça veut dire. Le mot enchaîné que j'ai employé ici, c'est peut-être un peu fort, mais ce que j'aimerais mettre en avant dans les versets 1 à 8, c'est vraiment le fait que l'attachement à Christ est indispensable aux disciples de Jésus-Christ. Plaçons-nous dans le cadre du texte, plutôt à la campagne, plutôt à côté des vignes. On peut d'ailleurs penser que Jésus, quand il prononce ses paroles, il se promène avec ses disciples à côté de vignes qui se trouvent à Jérusalem. Et là, il dit de lui-même, Jésus s'identifie à une vigne qu'il voit. Il dit au verset 1, « Je suis le vrai cep. » Il faut savoir que cette image de cep, de vigne, est pas mal utilisée dans l'Ancien Testament pour désigner Israël, le peuple d'Israël. Et finalement, ce peuple est comparé à une vigne que Dieu a plantée. Finalement, ça représente le symbole de l'alliance de Dieu avec son peuple. Seulement, il y a une chose qu'on remarque dans la vie de ce peuple, c'est qu'ils portent souvent très peu de fruits, ils ne sont pas très fertiles et ils sont infidèles. Et Jésus prononce cette parole, il dit « Je suis le vrai cep ». Alors je pense que Jésus se présente ici comme le vrai Israël, en tant que véritable peuple de Dieu. Et ce que le Père plante ici, eh bien c'est Christ. Pourquoi je dis cela ? Eh bien le fait que Dieu pose Jésus-Christ comme ce plant de vigne, ou ce cep, comme seul et unique véritable représentant du peuple de Dieu, ça nous pose une question, ou plusieurs. Est-ce que je désire faire partie du cep qui est Christ, ce cep choisi par Dieu? Est-ce que je désire véritablement une relation avec Jésus-Christ? Est-ce que j'ai toujours ce désir en tant que croyant aujourd'hui de cultiver ma relation à Jésus-Christ? Est-ce que j'ai toujours ce désir-là? Et je pense que ça a son importance. D'autant plus peut-être aujourd'hui, parce que lorsqu'on continue les versets 2 et 3, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte plus de fruits. » Alors, deux types de sarments. Un qui ne porte pas de fruit et qui est enlevé. Ça a fait écrire pas mal d'encre, juste ce verset. Alors moi, je botte en touche. parce qu'il y en a qui pensent qu'on parle de salut. Est-ce que c'est vraiment des chrétiens? Est-ce que un semblant de chrétien peut être vraiment en Christ? Donc je vous laisserai juste méditer dessus pour vous. Et j'aimerais botter en touche parce qu'il me semble que le sujet principal du texte n'est pas là et qu'il est plutôt dans le fait d'être attaché à Christ. Et puis aussi, d'une manière très personnelle, je préfère être dans le deuxième cas de figure. Un serment qui porte du fruit, à la rigueur qui est taillé, qui en porte encore plus. Et ce que j'aimerais remarquer ici, c'est que Dieu le Père, qui est le vigneron, a ce désir, finalement, de voir ses serments porter du fruit. Tu me diras, en même temps, c'est un peu normal, hein, quand tu plantes une vigne, tu as envie qu'elle te rapporte du raisin. Mais Dieu aussi, il prend soin de sa vigne. C'est un bon vigneron. Et on le voit ici, il est dit qu'il taille ses sarments pour qu'il porte encore plus de fruits. Le mot tailler a comme sens autre que simplement couper, mais il peut vouloir signifier aussi nettoyer, enlever les impuretés, rendre pur, purifier. Et Dieu fait un peu comme ce vigneron dans notre vie. Il sait ce qui est mauvais pour notre croissance. Il prend le temps de nettoyer, de purifier. Et c'est pas simplement une question de péché ou pas dans notre vie. Je pense que l'idée va plus loin. Parce qu'un vigneron, quand il s'occupe de sa vigne, il coupe aussi les branches qui ont poussé un peu trop vite et qui sont susceptibles de casser, soit parce que quand il y a du vent, et ben ça casse. Et je pense que de la même manière, et ben Dieu nous protège. Il nous protège de certaines situations et il veut nous voir solidement attachés à lui et bien grandir pour porter du fruit. En fait, Dieu c'est un père pour nous quand même. Et ça m'a fait penser à ce verset de Hébreux 12, verset 5. J'y arrive. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Et je trouve que c'est vraiment fort cette relation qu'on peut avoir avec Dieu en tant que Père. Et simplement, une question, c'est l'outil que Dieu utilise, on le voit un peu au verset 3, il parle que déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est Jésus qui dit cela. Et ça fait référence vraiment à cet outil qui est indispensable pour nous en tant que chrétiens, c'est la parole. Et Dieu, lorsqu'il veut nous tailler, nous purifier, nous faire grandir, avancer, nous protéger, il utilise sa parole. Il nous parle à travers sa parole. Alors, à quel point cette parole, la Bible qu'on détient aujourd'hui en tant que chrétien, elle a de l'importance? Alors, je pense qu'on le sait tous. Mais est-ce que vraiment j'ai toujours ce désir de la lire, pas seulement ma première année de conversion, mais année après année, constamment, jour après jour, à essayer de puiser en elle les ressources dont j'ai besoin. Alors quand on continue la lecture des versets 4 à 5, on voit aussi que Jésus met en avant cette importance de rester constamment attaché à Jésus et à ses paroles. Alors, est-ce que vous avez déjà à l'occasion invité des amis chez vous ? Je pense qu'on l'a tous plus ou moins fait. Mais est-ce que vous connaissez cet ami particulier? Si, tu vois bien, c'est ton pote qui vient. T'aimes bien prendre un café avec lui. Mais il y a un inconvénient. C'est qu'il a tendance à vouloir squatter chez toi. Le gars, il bouge pas. Il reste. Il s'attarde longuement. T'enlèves les choses sur la table, mais rien n'y fait. Vous le connaissez aussi. Il bouge pas. Et il ne veut pas partir. Alors, dans ce que Jésus dit de demeurer en lui, j'ai trouvé cette illustration assez sympa pour montrer qu'on doit être un peu comme cet ami-là. C'est-à-dire, rester. S'attarder. En fait, c'est trouver en la personne de Jésus toutes les raisons de vouloir rester à côté de lui, de squatter avec lui, de s'attarder longuement à parler avec Jésus. Je ne veux pas partir du lieu où Jésus-Christ est. Je ne veux pas partir de ce lieu où mon maître se trouve. Alors, cette idée-là, je ne pense pas qu'elle concerne simplement les chrétiens super spirituels. Je pense qu'elle concerne tout chrétien, tout chrétien voulant porter du fruit. C'est indispensable de vouloir, comme le texte le dit, de demeurer en Jésus-Christ, de rester proche de lui, de s'accrocher à lui. Alors j'en suis où dans ma relation avec Jésus aujourd'hui? Est-ce que je passe très souvent chez lui pour m'installer sur son canapé? Ou au contraire, est-ce que j'ai tendance à lui envoyer un texto pour lui dire « Bon, remets ça la prochaine fois ?» Je dois, en tant que chrétien et disciple de Jésus-Christ, je dois cultiver cette dépendance constante à Jésus. Et ça, il y a une raison très simple, c'est pour vivre. Je dois réaliser, comme le sarment qui tire sa nourriture, sa sève pour croître, moi je dois recevoir la vie de Jésus en moi pour me nourrir, pour grandir. Alors ce sont peut-être des choses très banales qu'on entend très souvent en tant que chrétien, mais combien importantes pour ma vie de tous les jours. Finalement, comment c'est facile aussi de tomber dans une certaine routine, même une routine très spirituelle, mais qui est quand même une routine. Ou encore, ça peut être facile de prier pour que Dieu m'aide à faire ceci ou cela pour lui, même si c'est une bonne motivation. Ma première prière ne devrait pas être « Jésus, vis ta vie en moi ». Produis ta vie en moi. Fais couler ta vie en moi. Range un peu les placards parce qu'il y en a un peu besoin. Mais je trouve que c'est facile aussi de tomber dans cette routine d'être ou de paraître chrétien, faisant des choses très bien. Mais en fait, les fruits n'en sont pas. Verset 5, il est dit, sans moi, sans Jésus, sans ma vie en vous, vous ne pouvez rien faire. Verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Je ne détaille pas non plus ce verset. Mais il faut savoir que dans la caractéristique du bois de vigne, il y a un truc extraordinaire. C'est qu'on ne peut rien en faire. Concrètement, on ne peut pas faire de meubles avec. On ne peut pas s'en servir pour construire telle ou telle chose. C'est même pas un bon bois de chauffage, ça ne chauffe pas. Alors, nous en tant que disciples, sans être enchaînés à Christ, sans cet attachement à Christ, on est un peu comme ce bois de cèpe, on est inutile, on est sans valeur. Mais il y a un truc encore plus extraordinaire, c'est qu'un sarment peut porter du fruit et être à l'origine d'un très bon fruit qui va donner lieu à la fabrication de très grands vins, si c'est des fans de vin, des très grands crus. Alors, enchaîné à Christ, le disciple, il y a un truc extraordinaire qui s'opère en lui. C'est la vie de Christ se déverse dans sa vie et donne naissance à du fruit. Mais pas à un seul fruit, à beaucoup de fruits. Et ça, c'est l'œuvre puissante du Saint-Esprit en nous. Parce que la sève qui découle de Jésus-Christ dans notre vie, c'est un esprit de puissance. Pourquoi j'insiste sur ça? C'est parce qu'un cœur humain transformé par l'Esprit manifeste la grandeur, la gloire de Dieu. C'est énorme de réaliser ça, que c'est possible qu'un cœur humain transformé par le Saint-Esprit puisse refléter la gloire de Christ, la gloire de Dieu lui-même. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Verset 8. Il y a aussi une chose assez sympa, juste le verset d'avant, verset 7. Vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Je ne sais pas si vous avez fait la liste au Père Noël avant Noël, si vous avez reçu des cadeaux. Mais en fait, c'est pas ce qu'il dit. Il dit pas de faire la liste de ce qu'on voudrait et que cela va nous être accordé. Mais en vrai, si la vie de Christ se déverse en nous, elle va nous transformer au point que notre seul sujet de prière soit la gloire de Dieu, soit la manifestation de la gloire de Dieu. Alors, tu comprends bien que si Jésus-Christ vit en toi, si c'est lui qui s'exprime dans ta vie, il ne va pas demander une belle maison, il ne va pas demander une belle voiture, même si il n'y a rien de mauvais en soi. Mais la priorité ne sera pas là, le but ne sera pas là. Le but sera de glorifier Dieu, de manifester la grandeur de Dieu. Et cela vous sera accordé. Un chrétien enchaîné à Christ. Un bon chrétien, c'est un chrétien enchaîné. Le véritable disciple vit cette relation à Christ, cette relation d'attachement et de dépendance constante. Ça, c'est vital. Et c'est ce que je voulais partager avec ce point. Ça me fait penser à un séjour que j'avais passé au Pérou. Au Pérou, on était parti avec Léa faire 3 semaines là-bas pour aider les églises qui sont assez pauvres et les personnes des villages reculés. On a porté de l'animation et aussi un peu d'argent et y avait des infirmières qui ont pu parler un peu de leur travail et d'apporter des notions d'hygiène de vie et de santé. Mais il y a quelque chose qui m'a impressionné, c'est que je suis parti là-bas en me disant « bah ouais, je vais pouvoir les aider ». Je vais pouvoir mettre au service pour eux, mais il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est parce que c'est eux qui m'ont aidé. Ils m'ont aidé parce que ces gens, ils vivaient cette dépendance à Christ. Ils n'avaient rien du tout. Et en fait, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que tous les matins là-bas, de 6h à 7h du matin, l'église a été 3/4 pleine parce que les gens désiraient prier. Et tous les matins, ils n'ont pas le moyen de locomotion, mais tous les matins, de 6h à 7h, il y avait au moins 80 personnes qui priaient ensemble avant de commencer la journée. Mais je pense qu'ils avaient compris certaines choses vis-à-vis de la dépendance à Jésus-Christ. Et ils s'attendaient à l'action de Christ dans leur vie. Alors oui, j'ai intitulé ce premier point... Le chrétien enchaîné à Christ ou être enchaîné à Christ, c'est peut-être un peu fort comme image, mais je trouvais que ça peut bousculer des fois. Mais c'est vrai que cette image d'être enchaîné, ça peut peut-être bousculer les personnes. Et je veux pas rester sur cette image là. Et je veux avec vous maintenant un peu faire tomber ces chaînes. Et m'expliquer sur ce que c'est ces chaînes du disciple, ce que porte finalement le disciple dans ces chaînes. Et ce sera les versets 9 à 11, à 16, pardon. Dans ces versets, Jésus dépasse maintenant simplement l'image du cep et du serment. Il dépasse cette métaphore pour décrire d'une manière plus précise ce qui attache profondément le disciple à Christ. Tout ce qui vient d'être partagé jusqu'à maintenant va prendre, finalement, dans ces versets, tout son sens. Verset 9, il est dit « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Toute l'importance d'être lié à Christ prend tout son sens dans l'amour de Christ. L'importance d'être attaché, lié à Christ, prend tout son sens dans l'amour de Jésus-Christ. Jésus nous aime du même amour que Dieu le Père aime Jésus-Christ. Cet amour qui unit Dieu le Père et Jésus-Christ, c'est du même amour que je suis aimé. Un amour incommensurable, un amour indescriptif. Et c'est dans cet amour que le disciple s'inscrit dans la relation avec Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas ce que ça évoque en vous, parce que peut-être jusqu'à maintenant, ça pouvait être simplement un moyen de vivre sa foi chrétienne, c'était de s'attacher à Christ. Mais en fait, ce qui bouscule cette relation, c'est cet amour-là. Dieu m'aime, Jésus-Christ m'aime du même amour que Dieu l'aime. Et si le sarment n'a pas le choix d'être attaché au cep pour vivre, sa position est forcée et subie, même si dans le principe, on devrait vivre de la même manière, mais sur la forme, c'est pas tout à fait pareil. Ma relation avec Jésus, elle est soumise volontairement quand je comprends cet amour dont je suis aimé. Son obéissance que Jésus-Christ a manifestée à Dieu était motivée par l'amour, par cet amour. Je dois avoir le même élan pour ma relation avec Christ. Je ne dois pas faire pour faire, mais agir en fonction de l'amour que je comprends de Jésus-Christ. Notre relation à Christ s'imprègne, comme je le dis, de cet amour qui va être finalement la source de notre attachement et de notre obéissance à Christ. Cet amour, il attire. Il attire à vivre près de Jésus-Christ, au point de vouloir s'attacher, rester attaché à Christ. Et puis cet amour nous pousse aussi. Nous pousse vers une promesse. Une promesse qui découle de cette obéissance liée à cet amour, c'est la joie. Je vous ai dit cela, verset 11, afin que ma joie demeure en vous et que votre joie s'accomplète. Ça, c'est un truc extraordinaire aussi. Que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Jésus ne donne pas une récompense à notre obéissance ici, mais cette joie est la même que celle qui anime Jésus-Christ à obéir à son Père lorsqu'il est sur terre. Cette obéissance parfaite à Dieu. Et en fait, cette joie va animer notre vie lorsque nous osons accepter, l'idée de mourir à soi-même pour l'amour du Christ. Cette joie anime notre vie lorsque nous osons accepter l'idée de mourir à soi-même pour Jésus-Christ. C'est une joie qui remplit notre être. Pourquoi ? Parce que nous sommes comblés par cet amour pour lequel nous avons été créés. Ça va ? Et puis cet amour nous pousse aussi vers les autres. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Alors, je ne vais pas détailler, mais on peut respecter que ce commandement, il me semble, si on comprend cet amour de Dieu pour nous. On peut vivre cet amour si, en fait, on a cette habitude d'être imprégné de cet amour. Et puis, je trouve que c'est un enjeu, si Jésus commande, donne ce commandement, c'est qu'il y a un enjeu, et je vous le rappelle juste, c'est que c'est à notre amour que les gens verront, que les personnes extérieures, que tout ce qui se passe aujourd'hui même, c'est à cet amour que les gens verront qui est Dieu et qui reconnaîtront qui est Dieu, le vrai Dieu. Alors je ne sais pas si dans ta vie, il y a un truc que tu trouves particulièrement beau de réaliser, un truc que tu aimerais, un truc de fou là, que tu n'as jamais fait, mais je ne sais pas, être pilote d'hélicoptère, être Premier ministre, même si c'est pas le moment, ou d'autres projets, tu vois, des projets fous. Dans la suite du texte, moi je trouve qu'il y a un projet énorme, un projet de dingue. C'est magnifique de réaliser que en tant que disciple de Christ, j'ai la possibilité de devenir ami de Christ. Dieu, du fait de sa position, pourrait très bien faire de nous des esclaves et des serviteurs. Mais son projet est tout autre. Il veut faire de nous ses amis. C'est pas un projet de dingue pour ma vie. Dans notre relation avec Christ, Christ nous parle comme un ami. Il nous fait connaître ses projets, nous commande de respecter des exigences. Mais être chrétien, ce n'est pas simplement respecter bêtement des actions ou des commandements, mais c'est être ami de Christ. Cela ne veut pas dire que ça me dispense d'obéir, mais la différence, elle est énorme avec le serviteur, avec un esclave. Nous sommes totalement libres, et cette liberté n'est pas un prétexte, mais cette liberté est une force qui nous pousse à une complète soumission à Dieu. Réalisant, encore une fois de plus, l'amour dont Jésus nous fait part. Cet amour que j'ai le privilège d'avoir en Jésus n'est pas méritoire. Rien en moi ne peut justifier que ma vie s'imprègne de cet amour. Rien en moi ne justifie de pouvoir être non plus l'ami de Dieu. Cela s'appelle une grâce, et c'est purement une grâce. Verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est une grâce de vivre ça en Christ. C'est une grâce de pouvoir vivre cet amour, de pouvoir être libre en Christ. Alors, comment ne puis-je pas être exaucé quand je prie, puisque ma vie tellement imprégnée de l'amour de Christ, de la grâce de mon Sauveur, se détourne complètement de moi pour me centrer uniquement sur Christ et faire de sa volonté, de ses projets, les miens. Je répète. Comment ne puis-je pas être exaucé quand je prie? Puisque ma vie, tellement imprégnée de l'amour et de la grâce de mon Sauveur, se détourne complètement de moi pour me centrer uniquement sur Christ et faire de sa volonté la mienne. Je conclue. Enchaîné à Christ pour vivre libre. C'est l'idée que je voulais vous laisser ce matin. Alors j'espère que ça ne connaît pas quelque chose de négatif, mais plutôt de quelque chose de très positif. Parce que effectivement, en Christ, on est libre. J'aimerais partager un texte, vous n'êtes pas obligé de chercher, il se trouve dans Jean 8, 31. C'est Jésus qui parle. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Alors aujourd'hui, si on vit notre foi chrétienne, ce n'est pas parce qu'on a mérité quelque chose. C'est par grâce. Et c'est la grâce qui nous délivre et qui nous libère. Si nous continuons à vivre notre foi, pas de souci. Ça va, Colin ? Si nous continuons à vivre notre foi, ce n'est pas pour respecter des choses à faire. Ni comme, vous savez, cette personne que j'ai vue cette semaine qui ne comprenait pas que notre histoire ou le contexte religieux ne pouvait pas influencer mon choix. Donc je ne fais pas les choses pour respecter des lois, ni pour respecter une certaine histoire, ni pour respecter un système religieux qui me pousse à agir. Mais si nous vivons encore notre foi en toute liberté, c'est parce que nous sommes saisis de l'amour de Christ. Alors, vu les circonstances aujourd'hui, j'avais prié pour cette parole d'une manière particulière. Et j'espère que ça nous apporte aussi une ligne de conduite pour ce qui se passe aujourd'hui. que la meilleure des choses qu'on puisse transmettre aujourd'hui autour de nous, ce soit vraiment que Jésus s'exprime à travers de nous, que nous soyons des pancartes, si on peut le dire comme ça, des pancartes qui manifestent la grandeur de Dieu. Je pense que le monde a besoin de connaître Dieu et nous sommes des instruments au service de Dieu. Cet instrument ne peut pas être utilisé sans la source, sans Jésus-Christ qui coule et qui vit en moi. Prions. Père, je te remercie pour ce privilège qu'on a de te connaître, ce privilège qu'on a d'être aimé de cette façon par toi. Merci pour cette grâce que tu nous apportes au quotidien par Jésus-Christ. Merci pour ce privilège qu'on a de connaître tes paroles, ce privilège qu'on a de connaître ta parole. Seigneur, notre prière, c'est que ta vie coule en nous, que ta vie se manifeste dans notre vie, que ma vie ne stoppe pas ton élan que tu veux avoir dans ma vie. Et je prie aussi pour que nos églises, notre témoignage à l'extérieur, soit issu de ta vie en nous. Seigneur, on a besoin de toi et on a besoin de se soumettre à toi. Et on ne veut pas le faire avec simplement obéissance, mais on veut le faire en réalisant à quel point il est bon de t'obéir, à quel point ton amour nous pousse vers ton obéissance, à quel point ton amour nous pousse à vouloir s'accrocher à toi et à vouloir te rendre gloire. Sois béni pour qui tu es, pour tout ce que tu fais. Amen.